VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver en ce vendredi 11 décembre 2015 pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous à la une ce matin.
En République démocratique du Congo, le parquet demande la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition.
En Angola, des opposants jugés pour tentative de coup d'État entament une grève de la faim.
Ce vendredi sera-t-il une journée historique pour le climat? L'accord universel contre le réchauffement de la planète est attendu aujourd'hui.
Les points essentiels dans cette négociation sont des points qui sont particulièrement importants pour les pays en développement et notamment les pays d'Afrique.
Et puis, à venir dans la Minute Éco, les détails sur la première centrale électrique à biogaz du Burkina Faso. Et en sport, les résultats des matchs NBA joués cette nuit.
Le procureur général de la République démocratique du Congo a sollicité auprès de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition qu'il veut poursuivre pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a affirmé hier Aubin Minakou, président de la Chambre basse, lors d'une séance plénière. Jean-Roger Bion.
La requête du ministère public concerne les parlementaires Sami Badibanga, Mwendo Nzangi et Fabien Moutonde. Monsieur Badibanga est le président du premier groupe parlementaire d'opposition, soit l'UDPS et ses alliés. Monsieur Moutonde est l'élu UDPS de Lubumbashi et Monsieur Nzangi, élu de Goma, est membre de l'un des 7 partis ayant quitté la majorité en septembre. Selon des sources parlementaires que cite l'AFP, les députés visés avaient engagé en octobre une procédure de destitution à l'encontre du bureau de l'Assemblée nationale, accusant ces 7 membres de faute personnelle. Grave. Cette affaire intervient alors que le climat politique en RDC est très tendu. Depuis plusieurs mois, l'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de chercher par tous les moyens à contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter en 2016.
Au Burkina Faso, le président de transition estime que la mission a été accomplie. Michel Kafando, qui a dirigé le pays après la chute du président Blaise Compaoré, va céder le pouvoir dans quelques jours à Roch Marc Christian Kabore, élu président dès le premier tour lors de la présidentielle du 29 novembre. Au milieu de toutes sortes de difficultés, nous avons conduit le destin du Burkina Faso et bien peu alors donné une chance à la transition, a déclaré hier M. Kafando dans un discours télévisé.
En Tanzanie, le nouveau président, John Magufuli, a présenté son gouvernement hier. Il s'agit d'une équipe réduite pour honorer sa promesse électorale. Des détails avec Eddie Isango.
Ce sera un gouvernement rétréci avec 19 ministres. John Magufuli en a nommé 15 et cherche à pourvoir 4 portefeuilles, dont ceux de finances et du tourisme. Les présidents tanzaniens avouent qu'il ne les a pas encore trouvés et demandent patience. Plusieurs ministères du gouvernement sortant ont été regroupés pour réduire les dépenses publiques. 7 ministres ont été reconduits, dont Hussein Mwinyi, fils du deuxième président de la Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, qui conserve son poste à la Défense. L'ancienne représentante de la Tanzanie aux Nations Unies, Augustine Mahiga, devient ministre des Affaires étrangères. C'est la seule entrée marquée dans la nouvelle équipe. Depuis sa prise de fonction début novembre, M. Magufuli a multiplié les initiatives pour combattre la corruption et les gaspillages. Il a remplacé les festivités de l'indépendance par une campagne de nettoyage. Il s'est mobilisé comme un citoyen ordinaire pour ramasser les ordures dans un marché aux poissons à Dar es Salaam.
En Angola, 4 opposants jugés depuis 4 semaines ont entamé une grève de la faim pour exiger la conclusion rapide de leur procès. Lionel Gaïma.
Les 4 militants font partie d'un groupe de 17 leaders politiques de la société civile arrêtés en juin dernier sous l'accusation de rébellion et de tentative de coup d'État. Ils sont tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui exige le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Dans une lettre ouverte au chef de l'État angolais, les militants avaient menacé d'entamer une grève de la faim si leurs interrogatoires n'étaient pas conclus en fin de semaine. Parmi eux, le rappeur Luati Beirao, dont l'épouse s'inquiète de l'état de santé. C'est très difficile pour les prisonniers. Ils ont été en cellule d'isolement pendant près de 100 jours et ils ne voyaient le ciel qu'une heure par jour, a confié Monica Berayo à l'AFP, ajoutant que son mari était déjà fragilisé par une première grève de la faim. Les accusés nient toute intention de mener un coup d'État, assurant mener une lutte pacifique.
Au Soudan, un juge a formellement inculpé hier 25 musulmans d'apostasie, un chef d'accusation passible de la peine de mort. Le juge Abdallah Abdelbaghi a indiqué que les 25 hommes, des jeunes pour la plupart, seraient accusés d'avoir des idées contraires aux croyances islamiques et de parler d'elles dans les lieux publics.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, la difficile recherche d'un accord se prolongeait dans la nuit à la conférence climat de Paris. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères et président de la COP21, a jugé les négociations extrêmement proches du but et a appelé à des compromis pour surmonter les désaccords persistants. Le pacte, qui prendra le relais en 2020 du protocole de Kyoto, engagera pour la première fois les pays en développement à agir contre le réchauffement de la planète. Les premières réactions des ONG étaient plutôt positives, tout en regrettant des reculs, rapporte l'AFP. La COP21, nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Au Yémen, la coalition sous commandement saoudien a mené une série de frappes aériennes visant des écoles en violation du droit humanitaire international. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Amnesty International, qui estime que cela entrave ainsi l'accès à l'éducation de milliers d'enfants. L'Organisation de défense des droits de l'homme rappelle que les forces de la coalition sont armées par des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne et demande à tous les États de suspendre tous les transferts d'armement utilisés pour commettre des crimes de guerre. Dans un rapport intitulé « Nos enfants sont bombardés », Amnesty indique avoir enquêté sur 5 frappes aériennes dans des écoles entre août et octobre 2015 qui ont tué 5 civils et en ont blessé 14, dont 4 enfants.
Les principaux groupes de l'opposition syrienne ont annoncé à Riyad leur accord pour des négociations avec le régime de Bachar al-Assad, mais ont exigé le départ du chef de l'État avec le début d'une éventuelle période de transition. Anhar al-Sham, l'un des principaux groupes rebelles syriens, a annoncé son retrait de la conférence de Riyad. D'après une ONG, plus de 250 médecins ont été tués en 4 ans de conflit en Syrie et la situation se dégrade avec 25 attaques contre des centres de soins au cours des 2 derniers mois.
Et toujours à propos de la crise syrienne, quelques centaines de Syriens, dont des femmes et des enfants, fuyant la guerre dans leur pays, séjournent actuellement dans le nord-est du Mali, près de la frontière algérienne. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Ataï Ag Mohamed, de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il tente, selon lui, d'aller en Europe en passant par l'Algérie, et d'ajouter qu'ils sont dans le dénuement total et qu'il faut leur venir en aide. Mokhtar Cissé, élu de la région de Gao, a indiqué que les Syriens ont tous transité par la Mauritanie. Pour sa part, un responsable du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU a affirmé ne pas vraiment avoir connaissance de ce qui se passe dans le nord du Mali pour ses ressortissants syriens, mais que 88 d'entre eux, femmes et enfants compris, se trouvent dans la capitale, Bamako.
En Arabie Saoudite, fin hier de la campagne pour les premières élections ouvertes aux femmes candidates, mais les perspectives de voir des femmes élues demain, samedi, semblent très minces, Michel Joseph.
Plus de 900 femmes sont en lice face à quelques 6000 hommes pour siéger dans les 284 conseils municipaux du royaume, des assemblées chargées des rues, des parcs ou du ramassage des ordures. Ce scrutin est considéré comme un petit pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur qui était le dernier État à refuser aux femmes le droit de vote. Mais les Saoudiennes restent soumises à de nombreuses restrictions comme l'interdiction de conduire, un cas unique au monde et qui pourrait empêcher une partie des électrices de se rendre dans les bureaux de vote. Oum Mohamed, qui habite à la frontière du Koweït, indique qu'elle ne pourra y aller que si son mari l'y amène ou si elle loue avec d'autres habitantes une voiture avec un chauffeur. Les Saoudiens ont déjà voté 2 fois pour des municipales en 2005 et 2011. C'est cette année-là, dans la foulée des printemps arabes, que le roi Abdallah avait accordé aux Saoudiennes le droit de vote et d'éligibilité. 2 ans plus tard, il avait nommé pour la première fois des femmes au Majli al-Shura, un conseil consultatif. Malgré ces avancées, seules 130 600 femmes se sont inscrites sur les listes électorales pour le scrutin de samedi, soit environ 10 fois moins que d'hommes, selon des chiffres officiels.
Les parties rivales libyennes se sont réunies hier à Tunis en présence du nouvel émissaire onusien. Martin Kobler a tenté de faire avancer le projet contesté de gouvernement d'union parrainé par l'ONU avant une conférence internationale prévue dimanche à Rome. Durant cette longue session, j'ai senti un consensus sur l'urgence de parvenir à la signature de l'accord, a déclaré M. Kobler, évoquant notamment l'expansion du groupe État islamique en Libye. M. Kobler a précisé que les pourparlers reprendraient ce vendredi. La conférence de Rome doit être coprésidée par le chef de la diplomatie italienne, Paolo Gentiloni, et le secrétaire d'État américain, John Kerry. Après 6 mois de négociations, un projet d'accord sur un gouvernement d'union en Libye avait été annoncé début octobre au Maroc. Mais le texte, qui comprend la nomination d'un premier ministre en la personne de Fayez el-Sarraj, a ensuite été rejeté par les deux parlements rivaux.
Et maintenant, un condensé de l'actualité économique, nous retrouvons Anastasie Tudiesch.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, vient de publier un rapport qui tire la sonnette d'alarme contre les risques pour la sécurité alimentaire d'un commerce agricole mal géré. Au cours des 10 dernières années, le commerce de produits alimentaires et agricoles a presque triplé en valeur et selon la FAO, la production alimentaire mondiale devra augmenter de 60% d'ici à 2050 pour nourrir les 9 milliards d'habitants que comptera la planète à cette date. MTN, Canal+ et d'autres multinationales rejoignent l'association Convergence créée par Béatrice Damiba, l'ex-présidente du Conseil supérieur de la communication, le CSC, du Burkina Faso. Le but de l'association est de mieux protéger les détenteurs de droits en Afrique. Le financement initial de l'association, d'un montant de 200 millions de francs CFA, soit 350 000 euros, est un montant modeste, mais pour un enjeu immense. Pour l'association, convertir 20% de l'offre illégale en activité légale générerait pour l'État 4 milliards de francs CFA par an. Et enfin, le Burkina Faso qui recycle vert grâce à Faso Biogaz. Fondé et dirigé par un Néerlandais, Gilbert Brenninkmeijer, l'usine recycle, grâce à une unité de méthanisation, des déchets pour produire de l'électricité. D'une puissance installée de 275 kW, sa centrale à biogaz va progressivement atteindre une capacité de 1,5 MW d'ici 2017. Faso Biogaz, financé par le programme hollandais Private Sector Investment à hauteur de près de 1 milliard de francs CFA, environ 1,5 million d'euros, a créé 22 emplois permanents. Opérationnel de jour comme de nuit, la centrale peut traiter quotidiennement 40 tonnes de déchets collectés auprès de ses clients, qu'il s'agisse de l'abattoir frigorifique de Ouagadougou ou des brasseries du Burkina.
La Minute Éco, merci Anastasie. Sans plus tarder, le billet sportif avec Eric Manirakiza. La FIFA disqualifie Bilici dans la course à la présidence de l'institution.
Tout à fait. La candidature du président de la fédération libérienne a été rejetée ce mercredi, mais Moussa Bilici a saisi le tribunal arbitral du sport TAS en appel. Il veut que son intégrité soit établie. La même juridiction rendra public à 9h temps universel sa décision sur le sort de Michel Platini, suspendu provisoirement de toute activité liée au foot. Jusqu'au 5 janvier.
Et puis Eric, la vedette du Real Madrid, écartée de l'équipe de France.
C'est Karim Benzema qui a été puni par le comité exécutif de la Fédération française de football dans l'affaire du chantage à la sextape exercée sur Mathieu Valbuena. Et l'attaquant des Bleus risque de rater l'Euro 2016 si son dossier judiciaire n'évolue pas et l'Euro se joue en France.
Merci Eric. Nous fermons cette page avec les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain. Eh bien, Kevin Durant a réalisé un triplé pour mener le Thunder d'Oklahoma City à une victoire de 107 à 94 contre les Hawks d'Atlanta. Les autres résultats, Philadelphie 91, Brooklyn 100 et Los Angeles Clippers 80, Chicago 83.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'était donc notre tour d'horizon de l'actualité en 15 minutes. Mais Le Monde aujourd'hui continue sur VOA Afrique, car nous passons maintenant à notre tranche magazine. Jacques Aristide, toujours avec vous depuis Washington. Nous vous en parlions dès hier matin dans les nouvelles. Incertitude économique en Afrique du Sud suite à la décision inexpliquée mercredi du président Jacob Zuma de démettre de ses fonctions le ministre des Finances, Nenla Nenla Néné, et de le remplacer par David Van Rooyen. L'association des banques sud-africaines se dit très préoccupée. L'Alliance démocratique, principal parti sud-africain d'opposition, critique de son côté une décision imprudente et irrationnelle. Pour un éclairage, Timothée de Nangmaï a joint à Durban l'économiste Léon Katamboué.
C'est tout le monde qui réagit négativement parce que le monsieur Sanklanene a pris le ministère au moment difficile. Alors c'est l'homme qu'on croyait qu'il allait un peu stabiliser cette économie. On n'a pas compris comment le président a pris cette décision. Mais toutefois, tout le monde réagit négativement. Il dit que mais pourquoi le président a pris cette décision?
Le ministre Néné a été remplacé par David Van Rooyen. Qui est-il?
Bon, les médias nous disent qu'il était maire d'une municipalité quelque part. Il travaillait aussi dans l'agence qu'on appelle SALGA, qui est South African Local Government Agency. C'est un homme politique aussi, mais selon ce que le président a commenté lors de son affectation, il a dit que non, non, c'est l'homme qu'il faut pour relancer notre économie. Mais toutefois, même dans les médias, même quand les partis politiques de l'opposition ont réagi, ils ont dit que non, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment connu dans le monde de l'économie. Alors c'est pourquoi lorsque il y a eu sa nomination, la monnaie locale, qui est le rand, a essayé un peu de baisser. Le rand était à 14 et lorsque le monsieur a été nommé, le rand a chuté à 16. Alors bon, c'est comme si le marché a réagi négativement par rapport à son affectation.
L'économie sud-africaine continue de faire face à un taux de chômage préoccupant.
Comme je l'avais souligné, l'économie ne tourne pas bien. Il y a le problème de chômage, non seulement le problème de chômage, mais il y a plusieurs compagnies minières qui sont en train de menacer pour réduire les effectifs et aussi pour même réduire le nombre de branches. Le chômage, n'en parlons même pas.
Qu'est-ce que le président Zuma se propose de faire face à cette situation?
C'est une question qui est un peu difficile dans ce sens que vous voyez, les politiciens sont parfois difficiles à comprendre dans ce sens que même s'il trouve qu'il n'est pas capable de relancer l'économie, ben, il reste toujours au volant. Pour lui, il dit que lui et son cabinet, ils sont en train de faire tout pour relancer l'économie, pour réduire l'inégalité, pour réduire la pauvreté. Mais en réalité, nous voyons que les indices économiques montrent autre chose.
Léon Katamboué, économiste du développement, était au téléphone depuis Durban, en Afrique du Sud.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Disions un peu plus tôt, dernier jour de ce vendredi de la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Cette rencontre du Bourget près de Paris doit aboutir à un nouvel accord contraignant et universel sur le climat, applicable à tous les pays. Oxfam International est l'une des nombreuses organisations non gouvernementales qui prennent part à ce sommet. Pour cerner les enjeux de la COP21, Modibo Dembélé s'est entretenu avec un représentant de cette ONG. Nous écoutons Romain Benecchio.
Alors, ce sont effectivement des négociations difficiles parce qu'elles sont essentielles, plus importantes depuis Copenhague en 2009. Et les points essentiels dans cette négociation sont des points qui sont particulièrement importants pour les pays en développement et notamment les pays d'Afrique. Il s'agit de savoir quel sera le soutien financier qui sera disponible pour les pays les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. On parle d'inondations, de sécheresses ou d'événements climatiques extrêmes, mais aussi d'avoir suffisamment de garanties que les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à diminuer dans le futur. Car ce qui est actuellement mis sur la table par les pays développés et les pays émergents n'est pas suffisant pour nous maintenir sous une trajectoire de 2 degrés.
Les attentes des pays en voie de développement ont-elles été comblées?
À ce stade, il faut garder en tête qu'il reste encore 1, 2 ou 3 jours de négociation, suivant comment cela va se dérouler. On n'a toujours aucune garantie, notamment sur cette question du soutien financier. Il y a des propositions qui sont sur la table, mais encore rien qui soit suffisamment certain pour permettre aux pays en développement de quitter Paris avec suffisamment de certitude.
Est-ce possible la réduction de 2 degrés Celsius? Et si oui, pourquoi?
C'est un objectif réaliste et nécessaire. Il faut aussi garder en tête qu'un grand nombre de pays en développement, plus de 100, demandent que les températures soient maintenues sous les 1,5 degrés. On parle véritablement de survie. Mais pour que cela soit encore possible, il est absolument nécessaire que les réductions des émissions de gaz à effet de serre soient plus ambitieuses, et cela dès les années à venir.
Quelle est la stratégie à mettre en œuvre afin que les pays développés puissent quand même accepter de travailler ensemble afin d'atteindre cet objectif?
Il y a des compromis qui doivent être faits dans ces négociations. Il y a déjà des signaux qui ont été donnés, notamment par les grands pays émergents, les pays à revenus intermédiaires, qui eux-mêmes ont pris des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui ont aussi affirmé qu'ils prendront leur part dans l'effort financier qui sera nécessaire dans les années à venir. On peut notamment mentionner le cas de la Chine, qui a promis récemment plus de 3 milliards de dollars pour le soutien des pays vulnérables au changement climatique. Donc il est absolument nécessaire que les pays développés reconnaissent que des efforts sont faits, y compris par les pays émergents comme la Chine, et prennent leur part de responsabilité, notamment en rapport avec la responsabilité historique qui reste dans le camp des pays développés.
Romain Bénéquieu de l'ONG Oxfam, joint au Bourget en France. Et maintenant, cap sur Mopti au Mali pour vous parler d'une importante mobilisation qui a eu lieu hier dans les rues de cette ville. Plusieurs ONG de Mopti se sont en effet réunies pour organiser une marche afin de dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Les marcheurs ont parcouru 2 kilomètres pour aller remettre un message aux autorités régionales. De Mopti, le reportage de Mamadou Bokoum.
Ils sont des centaines de personnes membres de la société civile sorties pour cette marche citoyenne avec un seul mot d'ordre. Non à la violence faite aux femmes et aux filles. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Battre la femme dans le foyer est une violence, halte au mariage forcé » ou encore « Les conséquences des VBG sont graves sur les victimes, leur ménage, leur communauté et le pays tout entier, entre autres. » Souri Traoré est le coordinateur régional du réseau national de la jeunesse du Mali, RENAJEM. Ils nous parlent de leur motivation.
Nous avons été motivés par rapport aux violences qui sont faites aux femmes. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes mobilisés à travers un consortium de structures telles que le RENAJEM, la clinique juridique de Mopti, sous financement du JIPREC et avec tous les autres partenaires, essayer pour que les gouvernements, l'Assemblée, les autorités puissent voter une loi contre les violences faites aux femmes. Il y a plusieurs genres de violences qui sont faites aux femmes. Donc c'est pour cette raison que nous aussi nous apportons notre contribution à cela.
Partis du terrain scolaire de Gangal jusqu'au gouvernorat où ils ont été reçus par les autorités. Ici, les marcheurs ont livré leur message. Souri Traoré, coordinateur régional du RENAJEM.
En ce jour mémorable, plein de sens et de responsabilité, nous, organisation de la société civile malienne, ici présente, venons très respectueusement vers vous pour vous réitérer notre volonté à mettre fin à toutes les violences faites aux femmes et aux filles partout sur le territoire malien, dans les villes et dans les campagnes. Nous saisissons cette ultime occasion pour solliciter votre soutien indéfectible, nécessaire et indispensable au processus d'adoption de la loi contre les VBG au Mali que nous avons déjà enclenché.
Ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, assure le représentant du gouverneur Abdramane Tangara, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Mopti.
Toutes ces doléances figurent déjà en bonne place dans la politique du gouvernement de la République du Mali. Qu'à cela ne tienne, ce message il sera transmis à qui de droit. Nous allons prendre toutes les dispositions afin qu'il puisse parvenir aux plus hautes autorités du pays.
La marche est organisée par le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAJEM, en partenariat avec l'association des juristes maliennes sur financement de l'ONG Justice, Prévention et Réconciliation, JUPREC. C'est dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné, vous le savez, à 4 organisations de la société civile tunisienne pour leur action à la consolidation du dialogue national. Mais l'une des organisations récompensées se dit très inquiète par la dérive sécuritaire dans la fragile démocratie tunisienne en réponse à la menace djihadiste. John Linden a joint à Tunis la journaliste Hajidi Zakiya qui réagit tout d'abord sur l'attribution de ce prix Nobel à ses compatriotes.
De prime abord, ça ne peut que me faire honneur. Ça, c'est la première réaction. Mais après, pourquoi ce prix à la Tunisie, maintenant, dans un contexte international assez particulier? Et là, en cogitant comme ça sur la question, je me suis toujours dit que ça dénote quand même d'une maturité de la société civile acquise dans les années de braise. C'est une espèce de revanche.
L'une des 4 organisations récompensées cette année s'est dit inquiète par rapport à la dérive sécuritaire en réponse à la menace djihadiste. Est-ce que vous partagez cette inquiétude?
Le monde entier, je pense, hein, malheureusement, partage cette inquiétude. Certainement, nous, habitants l'hémisphère sud de la planète, c'est vrai que les dangers sont réels. Hein. Écoutez, en Tunisie, tous les 2-3 mois, on a un nouvel acte terroriste sanguinaire qui se passe chez nous. C'est pas qu'on s'habitue, non? Mais moi, je pense que le Tunisien, de par son histoire, de par ses gènes, il possède une telle joie de vie qui, je pense, le préserve. Pour les peurs, oui, elles sont là, mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter, justement et moi, je pense qu'il n'y a que la culture pour repêcher ces jeunes qui vivent sans avoir des fois un dollar pour se payer un petit café,
justement,
pour lire le journal.
Justement, Ben Moussa, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, dit que le meilleur moyen de combattre le terrorisme, c'est de respecter les droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont violés en Tunisie?
Les droits de l'homme, ça dépend sous quel angle on les voit. Pour moi, parce que tous les médias, tous les politiciens, tous les spécialistes, tous les experts, tous les congrès qui se font tous les jours depuis des décennies, on ne parle que de droits de l'homme. Mais enfin, en tout sens, c'est droits de l'homme, que ce soit à Tunis, à Paris, à New York ou à Bangkok. Si ce n'est cette dignité de manger correctement, d'aller à l'école, de se payer des plaisirs, de faire de la culture, de faire du sport, de pouvoir voyager. Je me suis toujours posé la question pourquoi on ne parle de droits de l'homme que sous la fenêtre du monde, excusez le terme, pourri de la politique. Non, moi, je les place ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ces jeunes Tunisiens livrés à eux-mêmes, mais il y a cette jeunesse du monde entier qui se perd, qui est perdue, parce qu'il n'y a pas cette alternative d'une nouvelle culture qui peut porter un nouvel espoir à cette humanité.
La Tunisie est en état d'urgence. En quoi cela peut-il ramener la confiance au sein des populations?
Ça dépend des milieux. D'après ma petite expérience, tout autour de moi, les amis, les voisins, les gens du quartier, etc. Donc, pour les gens aisés, pour eux, ils auraient aimé lever l'état de siège le plus tôt possible. Par contre, les gens qui sont obligés de passer des heures à attendre le métro, à attendre le bus, à rentrer à 9h du soir chez eux, esquintés après une journée de rude labeur, pour eux, c'est génial parce que le soir, les enfants sont avec leurs parents, avec leurs grands-parents, ils font leurs devoirs, etc. Donc, je ne peux pas dire exactement. Il y a des gens qui se disent c'est de la poudre aux yeux. Si on veut mener une réelle politique sécuritaire, on n'a pas besoin d'un état de siège ou d'un couvre-feu ou de voir des gens en uniforme. Non, normalement, le bon policier, le bon sécuritaire, on ne le voit jamais.
La journaliste tunisienne Hadidji Zakiya était en ligne depuis Tunis. Elle répondait aux questions de John Linden. Et voilà, vous l'avez compris, c'est ici que nous allons clore ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. C'est Daryl Smith qui était notre ingénieur. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous tout au long de cette semaine. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi et un très bon week-end. Take care.